bonsoir à tous. Le Twer Foot 79 pleure la disparition de Bertrand Marchand, entraîneur emblématique qui a fait la gloire du club dans les années 80-90. Sa réaction à suivre. À l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, 7 villes de Sévrienne accueilleront durant toute la durée de la compétition un village rugby. Explication à suivre dans cette édition. Pour la première fois cette année, le Twer C propose un accueil maison aux pèlerins de Saint-Jacques avec les gîtes des petits dortoirs. Cette année, c'est la commune de Chiché qui accueillera le week-end prochain la grande fête du cheval lors du lancement de la nouvelle année de la fédération Équiliberté 79.
La météo à l'issue de ce journal avec le même temps pour demain.
Alors que le convoi de l'eau parti de Lezay le 10 août dernier, convoi composé de plusieurs centaines de manifestants à vélo et en tracteur opposés aux mégabassines, est arrivé à Paris samedi à la mi-journée. La COP de l'eau annonce le lancement d'une nouvelle retenue de substitution. Après Mauzé-sur-le-Mignon 2011-2021 et Sainte-Soline en 2022, la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres a lancé en ce début de semaine le chantier de la troisième réserve à Prières, dans le sud des Deux-Sèvres, sur le bassin de la Sèvre-Niortaise, Marais-Poitevin. D'une capacité d'un peu plus de 160 000 mètres cubes, le nouvel ouvrage, le plus petit du projet, permettra à 9 agriculteurs de sécuriser l'eau nécessaire au fonctionnement de leur exploitation, qui compte 2 élevages de vaches laitières, dont une en bio, ainsi que des productions de céréales et de semences. Les travaux devraient s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Selon la députée de Sévrières, Delphine Bateau, l'étape torpille toute tentative d'apaisement et de retour au dialogue, au mépris de l'intérêt général et des attentes de Sévriens qui aspirent à la paix et à une autre politique de l'eau. Pour Lisa Bilucco, députée de la Vienne, et Benoît Biteau, député européen, le gouvernement continue dans la démonstration de force et le bras de fer contre sa population. Nous demandons la suspension immédiate des travaux, condition indispensable au retour du dialogue afin que Prières ne devienne pas un nouveau Sainte-Soline. Toujours dans ce dossier, dans un communiqué, la Fédération du Parti communiste de Deux-Sèvres appelle la population à manifester le 8 septembre afin de soutenir 8 militants poursuivis en justice ce même jour après les manifestations de Sainte-Soline le 25 mars. Le rendez-vous est donné à partir de 10h30 place de la Brèche à Niort pour, je cite, « condamner cet acharnement judiciaire et antidémocratique ». Fin de citation. Le club de Twer a le cœur lourd depuis l'annonce ce week-end de la disparition de Bertrand Marchand des suites d'une maladie à l'âge de 70 ans. Le coach a marqué l'histoire du club entre 1982 et 1997, le hissant au niveau national avec son complice, le président Morin. Laurent Cadu, l'un des capitaines de l'époque, n'a rien oublié et nous rappelle qui était Bertrand Marchand.
Un passionné déjà, un amoureux du foot et du sport, et puis c'est lui qui a écrit les plus belles années du Twer Foot 79, quoi, donc à l'époque le Mino Twer 7. Il a fait grandir le club, il a fait évoluer, il a fait progresser. On est arrivé à jouer en national plusieurs saisons, on a effectué aussi des belles affiches de Coupe de France avec des stades pleins. C'était lui qui vraiment était l'animateur, l'expert, l'entraîneur au sens noble du terme, quoi, parce qu'il était très proche des joueurs, mais en même temps il avait du recul, il était passionné, mais il vivait avec du recul des matchs, avec des analyses tactiques assez pointues, avec une grosse connaissance de l'adversaire, des recrues à chaque fois, et le lien, il était sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain. Il faisait attention aux joueurs qu'il recrutait par rapport aux hommes aussi qu'il souhaitait avoir.
Laurent Cadu, à propos de Bertrand Marchand. Autre réaction suite au décès de ce dernier, celle de Jérôme Degnaud, l'actuel entraîneur de la réserve du FCB, avait été recruté par Bertrand Marchand au début des années 90.
C'était quelqu'un qui était passionné et passionnant, hein, qui adorait le football, il ne vivait que pour ça. Donc je n'avais surtout pas hésité à venir rejoindre Twer à cette période. Et c'est vrai que le fait de le voir disparaître aujourd'hui, c'est une immense douleur en moi, puisque c'est l'entraîneur qui m'a le plus marqué au cours de ma carrière. Je l'ai connu à peu près 6-7 ans. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir de travailler avec lui, puisqu'il avait il était très très proche de ses joueurs. Il savait, c'était un meneur d'homme, hein, il savait leur inculquer certaines valeurs aussi. Donc il était juste, c'était aussi un bon tacticien. Donc voilà, il avait toutes ces qualités qui me plaisaient et qui faisaient que c'était un entraîneur qui était très connu et très réputé dans le monde du football. Et quand on voit la suite de la carrière qu'il a eue, hein, c'était tout à son honneur et mérité par rapport à toutes les compétences qu'il avait dans ce domaine.
Effectivement, après son passage à Twer, Bertrand Marchand a brillamment poursuivi sa carrière à Guingamp et en Tunisie, remportant la Ligue des champions africaines. Ses obsèques seront célébrées ce mercredi à 10h30 en l'église d'Erréac dans les Côtes d'Armor.
Notre département va vibrer rugby à l'occasion de la Coupe du Monde.
Le conseil départemental avait déjà organisé quelques animations comme la Coupe de rugby des collèges. cette fois, la collectivité monte en puissance avec des rendez-vous offerts à tous les Deux-Sévriens via les villages rugby, et ce durant toute la durée de cette compétition internationale que notre pays accueillera du 8 septembre au 28 octobre, jour de la finale. Les explications de François Gingros, conseiller départemental en charge des sports.
Qu'est-ce que c'est un village rugby ? Tout simplement un espace dans lequel la population va pouvoir être sensibilisée à la pratique du rugby, avec un terrain, va pouvoir participer à des ateliers, des jeux d'adresse, des producteurs locaux sur certains endroits. Enfin, en tout cas, des animations assez nombreuses. Tous les clubs du département ont répondu présent. C'est eux qui vont apporter une certaine logistique, un nombre de bénévoles qui va intervenir pour permettre ces animations, de proposer de la restauration, etc., etc. Enfin, en tout cas, tout ce qui permettra de passer un bon moment autour du sport. Ce que l'on a voulu, c'est pas rester au terrain de rugby de la commune. C'est délocaliser cette pratique de rugby et ce village au cœur du village, justement. Alors, pour Bressuire, par exemple, ce sera au château, puisque c'est un lieu qui a l'habitude d'accueillir des événements.
Hormis Bressuire, toutes les autres villes disposant d'un club de rugby auront aussi un village, à savoir Thouars, Parthenay, Mel, Saint-Mexant, Choré et bien entendu Niort. À noter que le premier match que posera la France à la Nouvelle-Zélande le vendredi 8 septembre à 21h15 sera diffusé sur écran géant dans le manège du conseil départemental à Niort. Les réservations sont obligatoires, car le nombre de places est limité.
Plusieurs gîtes bénévoles offerts aux pèlerins de Compostelle cette saison à Thouars.
Pour la première fois cette année, le Thouarsais propose un accueil maison aux pèlerins de Saint-Jacques, soit une bonne vingtaine de couchages. Ces hébergeurs bénévoles ont été réunis sous la bannière des Amis du chemin de Saint-Jacques par Ghislaine Arnaud, une Thouarsaise heureuse d'encourager la solidarité. Ces précisions au micro-colline de Dominique Hérault.
On s'adresse uniquement aux pèlerins et non, on a laissé tomber la Vélo Française parce qu'on n'a pas la structure suffisante pour accueillir des gros flux de touristes. Mais pour les pèlerins, c'est amplement suffisant. Ça fonctionne d'une manière très simple. Les gens nous téléphonent. On les dispatche chez les différents accueillants. Il n'y a pas de tarification. On pratique le donativo, c'est-à-dire que chaque pèlerin accueilli met ce qu'il pense être normal, naturel, dans une petite boîte. C'est une participation tout à fait libre. On offre la nuitée et le petit déjeuner. En général, s'ils ne viennent pas à 10, on rajoute une ou deux assiettes à notre table du soir. Chez moi, je peux en accueillir 2, voire 4. Il y a des familles où c'est seulement 2. Et puis j'ai une personne qui nous a rejoint, qui spontanément nous a dit « Moi, je peux accueillir 6 pèlerins ». Et effectivement, elle en a accueilli un groupe de 6 peu de temps après. Le bouche à oreille fonctionne très bien.
Les gîtes des petits dortoirs, c'est leur nom, figure sur le site internet de la Maison du Thouarsais. Mais on peut les joindre directement au 06 87 12 41 05. Le nombre de nuitées s'établit à une trentaine de pèlerins pour cette première année d'ouverture. Soulignons que les utilisateurs du chemin de Saint-Jacques font remonter des infos pratiques et des infos surtout utiles aux pèlerins. Ghislaine Arnaud.
Les petits dortoirs, ils ont pour mission essentielle d'améliorer l'offre d'hébergement avec des accueillants ou éventuellement créer un jour peut-être un gîte. Mais il y a aussi une deuxième mission qui est améliorer le balisage sur cette voie des Plantagenêts. Les pèlerins qui l'empruntent souvent nous ont fait des remontées en disant que le balisage était mal fait ou inexistant. Donc on a nos bénévoles de Thouars, de Parthenay, de Niort et de Mel qui se sont réunis et on a entrepris un grand chantier de balisage qui est déjà effectif sur le Niortais, avec des petits panonceaux, des petits stickers, la coquille jaune sur fond bleu. Et ça évitera à nos pèlerins de se perdre dans la campagne.
Cette voie des Plantagenêts part du Mont-Saint-Michel pour aboutir à la pointe de l'Espagne en passant par Fontevraud dans le Maine-et-Loire et Thouars donc. Elle fonctionne dans les deux sens, ce qui est une rareté due au fait qu'elle emprunte le GR36. Quoi qu'il en soit, si le pèlerin s'égare éventuellement, il ne perd ni sa boussole ni son objectif. Une quête personnelle, qu'elle soit sportive ou spirituelle. Reportage signé Dominique Hérault.
Pour Equiliberté, la rentrée ne va pas tarder.
La fédération qui regroupe dans les Deux-Sèvres des associations, une douzaine, et des indépendants, 200 personnes au total, organise sa virée les 2 et 3 septembre à venir. Elle aura lieu à Chiché cette année. Equiliberté s'est donné plusieurs missions. D'abord celle d'organiser des randonnées équestres. Les deux autres sont liées avec la première, puisqu'il s'agit de repérer les chemins ruraux et éventuellement de les labelliser. Autre mission, la sauvegarde des chemins et la promotion du tourisme équestre. Maryse Ducrot est la présidente de la Fédération de Sèvres et Bernard Giré, le vice-président.
Cette année, on travaille en partenariat avec la ville de Chiché et bien entendu avec le conseil départemental. Et donc, la virée a lieu le premier week-end de septembre. Le travail est déjà en route depuis de nombreuses semaines. Et on propose des randonnées, mais on propose aussi de très nombreuses animations le samedi après-midi et samedi soir.
Pour information, la virée, ça progresse tous les ans en nombre d'inscrits. On attend 150 chevaux, une quinzaine d'attelages. Et puis, comme le disait Marie, c'est ouvert l'après-midi à tout public, avec des spectacles de qualité et une soirée festive qui me paraît intéressante. Et c'est bien d'associer le monde équin avec la population et faire découvrir ce qu'on fait.
Au programme du premier week-end de septembre à Chiché, à partir de 16h30, le défilé des chevaux à la Priaudière. Puis à 17h sur le site à côté du gymnase, la visite des paddocks, le spectacle équestre Cabalicar, les baptêmes poney, un marché de producteurs et puis le soir à la salle des fêtes, le dîner dansant animé par l'orchestre Odyssey Live. Un rendez-vous important avant l'événement en 2024 puisque Équiliberté des Deux-Sèvres va organiser la rencontre nationale en juillet sur 2 jours. Ça se déroulera à Hervaux dans la prairie de Soulièvre. On aura l'occasion d'y revenir. Mais en attendant, la virée 2023 est donc prévue les 2 et 3 septembre à Chiché. En bref, quelques jours avant le Salon National du Bonsaï qui aura lieu les 9 et 10 septembre, le Parc Oriental de Molévrier accueillera de nouveau le professeur japonais Makoto Suzuki ce samedi 30 août. Ce spécialiste des jardins japonais s'était déjà rendu à Molévrier en 1987 pour attester du caractère japonais du jardin. De retour à Molévrier dans le cadre d'un séjour en France, accompagné de 25 de ses élèves de l'Université d'Agriculture de Tokyo, il réalisera avec ces derniers un atelier de taille au Parc Oriental. Une information pratique, en raison de travaux de réfection de la voirie boulevard du Guédo à Bressuire, la circulation et le stationnement seront interdits demain et mercredi sur une portion du boulevard située entre le giratoire de la place Émile Zola et le giratoire du boulevard Clémenceau. Le parking de la place Saint-Jacques restera ouvert pendant la durée des travaux. Une déviation sera bien entendu mise en place.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Une succession de nuages et passages ensoleillés, c'était le menu de ce lundi.
Exactement. Et en théorie, le risque pluvieux est désormais inexistant. Les rafales de vent devraient également disparaître. Des nuages et plus ou moins de soleil, c'est également le programme de demain mardi avec un très faible risque pluvieux. Nous aurons demain un léger vent de nord-ouest. Les températures, 11-12 au lever du jour, 21 à 23 pour les maximales.
Ça change de la semaine dernière.
Oui, tout à fait. Ce temps devrait nous accompagner en fait toute la semaine.
Il est froid. Merci Patrice pour toute l'info édition du soir, toute info près de chez vous. Retour demain matin.
À 7h avec Fabien Gazo. Belle soirée avec Colline. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.